VOA Afrique, les infos. À Washington, Bagassi Koura.
Bonsoir à tous pour ce bulletin d'information. Bagassi Koura ici à Washington. Dans quelques instants, Carrefour en rediffusion avec Camille Gros-Didier. Voilà, tout d'abord, faisons le tour de l'actualité internationale. Au moins 47 personnes ont été tuées dans une cinquantaine et une cinquantaine de blessés dans une explosion mardi sur un marché dans le nord-est du Nigeria, fréquemment visé par le groupe islamiste Boko Haram. C'est ce qu'ont indiqué des témoins à l'agence France-Presse. L'explosion a touché le marché hebdomadaire du village de Sabongari, situé à environ 135 km au sud de Maïdougouri, capitale de l'État de Borno, à une heure de grande affluence, c'est-à-dire vers 13h15 temps universel, 12h30 temps GMT, ont indiqué ses sources. Au Mali, l'attaque du 7 août contre un hôtel de Sévaré a été revendiquée par un cadre djihadiste proche du prédicateur islamiste radical malien Amadou Koufa. Le point avec vous, Idriss Fall.
Souleymane Mohamed Kenen a déclaré que la main de Dieu a guidé les Moudjahidines à Sévaré et que 15 infidèles et leurs complices ont été tués. Le bilan officiel de l'attaque contre l'hôtel Biblos est de 13 morts. Souleymane Mohamed Kenen a ajouté que l'imam radical malien Amadou Koufa aurait donné sa bénédiction. Mohamed Kenen était membre en 2012 de l'aile malienne des combattants de Mokhtar Belmokhtar. Il a aussi affirmé que les Moudjahidines étaient derrière une autre attaque dans laquelle trois militaires maliens ont été tués lundi vers Tenenkou. Selon le gouvernement malien, ces soldats ont péri suite à l'explosion hier d'un engin explosif au passage de leur véhicule près de Diabozo, dans la région de Mopti.
Présidentielle en Guinée, fin à Conakry de la convention nationale du RPG arc-en-ciel. La coalition au pouvoir, une convention bouclée par l'investiture du président sortant Alpha Condé comme candidat du parti à l'élection du 11 octobre. De son côté, la commission électorale nationale indépendante a annoncé l'augmentation du montant de la caution exigée des candidats ainsi que la hausse du plafond des dépenses de campagne multipliée par plus de 6, Jacques Aristide.
La caution est en effet passée à 800 millions de francs guinéens, alors que le montant global des dépenses pouvant être engagées par candidat ou par parti politique dans le cadre de la campagne électorale est plafonné à 20 milliards de francs guinéens. Lors de la présidentielle de 2010, remportée par le président Alpha Condé, la caution s'élevait à 400 millions et le plafond des dépenses de campagne à 3 milliards. Cette caution sera remboursée aux candidats qui auront obtenu au moins 5% des voix d'après la CENI. La date du premier tour de la présidentielle a été confirmée au 11 octobre par un décret présidentiel publié hier soir, à la veille de l'investiture du président Condé par le Rassemblement du peuple de Guinée comme son candidat. C'est l'opposant et ex-premier ministre Sélou d'Alain Diallo qui sera le principal rival du chef de l'État sortant lors de cette joute électorale.
Les casques bleus de nouveau accusés de crimes en République centrafricaine. Amnesty International rapporte le possible viol d'une fillette ainsi que l'homicide d'un adolescent de 16 ans et de son père. Conséquence, la MINUSCA ouvre une enquête sur ces abus qui auraient été commis au cours d'une opération armée à Bangui début août. Présidentielle rwandaise, le Parlement autorise la réforme constitutionnelle qui pourrait permettre au président Paul Kagame de briguer un troisième mandat en 2017. D'après les législateurs, seuls 6 électeurs se sont opposés à l'amendement de l'article 101 lors des consultations populaires à travers le pays. Cet article limite à 2 le nombre de mandats présidentiels successifs. Et toujours au Rwanda, Kigali se félicite de l'abandon de la procédure d'extradition contre le chef des services secrets Emmanuel Karezi Kareka, arrêté mi-juin à Londres. Il est désormais libre de rentrer chez lui au pays. En République démocratique du Congo, le Sénat a voté une loi sur la répartition des sièges, texte nécessaire pour l'organisation d'élections locales contestées prévues en octobre. À noter que le vote s'est tenu en l'absence de l'opposition qui a boycotté la séance. En République démocratique du Congo, toujours, les Nations Unies se disent très préoccupées de la disparition de Bienvenu Matumo, ce militant de la lutte pour le changement. La Lucha a disparu samedi à Kinshasa. S'il est arrêté, on espère qu'il y aura une explication à déclarer à l'AFP, le directeur du bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme en RDC. un millier d'immigrés expulsés du Gabon en 2 mois. Les ressortissants étrangers avaient jusqu'en juin dernier, date butoir fixée par le gouvernement de Libreville pour régulariser leur situation ou quitter le territoire gabonais. La correspondance de Jean-Rovi Dabani à Libreville.
Depuis quelques jours, la police se livre à des contrôles et expulse ceux qui n'auraient pas obtempéré. Longtemps considéré comme un Eldorado, le Gabon, avec une population de moins de 2 millions de personnes, accueillait jusqu'en juin de 100 à 150 000 étrangers sur son territoire. Depuis son lancement, le ministre de l'Intérieur, Guy Bertrand Mapangu, considère l'opération de régularisation comme un succès. Plus de 10 000 étrangers ont régularisé leur situation malgré le coût prohibitif des titres de séjour. 500 à 600 000 francs CFA selon les nationalités, sans compter le pourvoi glissé pour accélérer le travail de l'administration. M. Mapangu a également assuré dans un communiqué que tout a été organisé pour prévenir toute forme de dérapage. Avec ce départ précipité des ressortissants ouest-africains transitant par plusieurs pays pour rejoindre leur, on a affleuré l'incident diplomatique. Certains pays d'Afrique de l'Ouest, comme le Sénégal, ne sont pas prêts d'oublier la réaction du gouvernement gabonais. L'ONG sénégalaise Horizon Sans Frontières a indiqué dans un communiqué que ce n'est pas la première fois que le Gabon maltraitait les ressortissants sénégalais sur son sol. M. Mapangu a nié farouchement ces accusations, expliquant que l'ambassadeur du Sénégal au Gabon avait bien assisté à l'opération de rapatriement. Selon le ministère de l'Intérieur, ces immigrants ont embarqué via le port de Libreville sur un bateau, battant pavillon camerounais jusqu'au port nigérien de Calabar, le plus proche de la frontière gabonaise.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
L'actualité internationale, parlons maintenant de l'avion du vol MH17 de Malaysia Airlines qui s'est écrasé dans l'est de l'Ukraine l'an passé. Les enquêteurs ont trouvé des fragments qui pourraient provenir d'un missile russe sol-air. Dans un communiqué ce mardi, les juges néerlandais affirment que les enquêteurs de plusieurs pays sont en train de vérifier plusieurs parties éventuellement provenant d'un missile sol-air. Le vol MH17 s'est écrasé le 17 juillet de l'année dernière dans la région de Donetsk, un territoire ukrainien tenu par les séparatistes pro-russes. Les 298 personnes qui étaient à bord, la plupart d'entre eux donc néerlandais, ont été tuées. L'armée turque affirme que ses avions de guerre ont attaqué 17 cibles des rebelles kurdes dans le sud-est de la Turquie. Selon un communiqué, ces bombardements ont visé des positions du PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan, dans la province de Hakkari, à la frontière avec l'Irak et l'Iran. Ces attaques font suite à la mort lundi de 9 personnes dans des attaques attribuées au PKK dans la province voisine de Sirnak et à Istanbul. Calme relatif la nuit dernière dans Ferguson, ici aux États-Unis. Pour la deuxième nuit consécutive, la police a affronté les manifestants. Affrontements qui ont baissé en intensité alors que l'état d'urgence demeure dans cette ville du Missouri, Nicolas Pinault.
Oui, la police a encore arrêté plusieurs personnes à Ferguson alors qu'un adolescent noir a été inculpé après avoir tiré sur la police. Il a été grièvement blessé par 3 policiers qui ont riposté au tir. Il se trouve toujours à l'hôpital dans un état critique. Les manifestants ont battu des tambours et scandé des slogans, jetant des bouteilles et des pierres sur les policiers qui ont fait usage de spray au poivre et arrêté plusieurs personnes encore hier soir. Nous continuons de soutenir la liberté d'expression, mais les agitateurs qui ne répondent pas aux appels à se disperser risquent d'être arrêtés, a prévenu le département de la police du comté de Saint-Louis, dont dépend Ferguson, sur Twitter. Ces affrontements sont intervenus après des violences qui avaient poussé les autorités à décréter l'état d'urgence dans la ville. On se souvient que de violentes émeutes avaient agité Ferguson en novembre dernier. Elles s'étaient propagées à d'autres grandes villes américaines après l'annonce de l'abandon des poursuites contre le policier blanc qui avait tué Michael Brown, un jeune noir américain non armé.
C'est une première au Japon depuis la catastrophe nucléaire de Fukushima en 2011. Une compagnie d'électricité a redémarré un réacteur nucléaire ce mardi. Selon Kyushu Electric Power Company, l'usine de Sendai devra générer de l'énergie d'ici ce vendredi et être en pleine capacité d'ici le mois prochain. Les installations nucléaires du Japon avaient été fermées pendant 2 ans pour subir des contrôles de sécurité. Le gouvernement veut porter la production d'énergie nucléaire à plus de 20% de l'électricité du pays en 2030. La majorité de la population japonaise est, elle, opposée à la mise en marche des réacteurs. Et puis enfin, la Chine a-t-elle manipulé sa monnaie ? Ce mardi, le yuan, monnaie fortement contrôlée, a subi sa plus forte baisse en une journée depuis 2 décennies. Le yuan a chuté de 1,9% par rapport au dollar américain. C'est tout donc pour ce bulletin d'information. Place maintenant à Carrefour en rediffusion avec Camille Gros-Didier.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.